Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique dans laquelle nous allons évoquer un sujet pas très moral, tant par ce qu'il représente que parce qu'il s'agit d'une histoire de gros sous. Dans une décision récente, Cour administrative d'appel de Lyon du 19 octobre 2023, la Cour administrative donc vient de rendre une décision qui prétend régler en quelques lignes, de manière péremptoire et définitive, une question très compliquée. Si l'on arrive à peu près à définir la prostitution, comment peut-on qualifier ce que l'on appelle la valeur d'échange de la compagnie intime ? Alors pourquoi c'est épineux et intéressant ? C'est parce que lorsqu'on parle de prostitution, on parle d'un métier, même si on cherche en vain une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme, qui, s'il n'est pas vraiment reconnu, bénéficie quand même des attentions de l'URSSAF et du fisc, puisque la prostitution est taxée pour ses revenus comme bénéfices non commerciaux, les fameux BNC, et entraîne des cotisations sociales. Là aussi d'ailleurs, la disparition programmée de l'argent liquide est nécessairement une source d'inquiétude. Il y a d'ailleurs une jurisprudence étonnante rendue par la Cour européenne des droits de l'homme en 2007, puisqu'elle a débouté une prostituée qui, voulant sortir de la prostitution, avait demandé à l'URSSAF une évolution de son statut vers décoratrice d'intérieur en individuel, et elle reprochait alors à l'URSSAF de lui demander de payer des cotisations pour cette nouvelle activité débutante, de sorte que n'ayant pas encore de revenus, elle était alors obligée de se prostituer afin de sortir de la prostitution, ce qui était totalement kafkaïen. Ici, avec l'arrêt de 2023, la Cour administrative d'appel s'est penchée sur le cas des « sugar daddy » et des personnes généralement jeunes et accortes qui échangent leur affection contre des cadeaux, plus ou moins monétarisés et qu'on appelle les « sugar baby ». Dans la mesure où une telle prestation de service pourrait être identifiée, alors même qu'il s'agit de relations pérennes, amicales, affectives ou sexuelles, la question se poserait aussi de savoir quelle pourrait être la supposée valeur d'échange de ces services rendus par la personne de sexe féminin aux hommes plus riches et plus âgés. Et donc le plus souvent, c'est avec prudence que chacun s'abstient, et notamment le législateur, parce qu'il est très difficile de qualifier précisément les arrangements financiers qui peuvent exister entre des personnes qui sont liées par des relations amicales, affectives ou sexuelles. C'est-à-dire qu'il faut distinguer entre le don et l'achat de services, ce qui n'est pas évident. Cette décision, donc, qui vient d'être rendue par la Cour d'appel de Lyon, est parfaitement remarquable parce qu'elle ne s'embarrasse pas du tout de cette prudence. Dans cette affaire, il s'agissait d'une femme qui avait fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, ce qu'on appelle un contrôle fiscal, après que l'administration ait été informée par le tribunal de grande instance de l'ouverture à son encontre d'une procédure pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables, procédure au terme de laquelle l'intéressé a finalement été relaxé d'ailleurs. Le vérificateur fiscal avait alors considéré, au vu des pièces de la procédure pénale, que cette dame avait en fait exercé de manière habituelle une activité d'escorte girl au cours de la période vérifiée, de sorte que la contribuable ainsi qualifiée a d'abord été soumise à l'impôt sur le revenu, donc dans la catégorie des BNC. Comme une prostituée donc. Ainsi, la jurisprudence courante se borne à distinguer dans les échanges financiers qui sont constatés dans le cadre d'une relation présentant un certain degré d'intimité, ce qui constitue une pure libéralité, c'est-à-dire un cadeau, de ce qui constitue une source régulière de profit, le revenu correspondant étant alors imposable à l'impôt sur le revenu. Mais personne ne s'était risqué jusqu'à ce jour à qualifier plus précisément ce revenu. C'est cet écueil qu'a décidé de franchir allègrement l'administration fiscale, puisqu'elle a d'abord décidé d'appliquer à l'infortuné contribuable les modalités de taxation et de prescription qui sont normalement réservées aux activités professionnelles occultes, c'est-à-dire le travail au noir. Par ailleurs, le service vérificateur avait estimé pouvoir regarder l'activité ainsi qualifiée comme une activité économique qui serait imposable à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. La contribuable, pour sa part, contestait fermement avoir réellement exercé une activité d'escorte, en faisant notamment valoir qu'elle entretenait avec ses amis, parce qu'en effet, elle en avait plusieurs, des relations de longue date, plusieurs années, plus de 30 ans pour l'un d'entre eux, lesquelles relations étaient caractérisées par des liens amoureux, d'affection, polyamour on dira, ou d'amitié, ainsi que tous les témoignages l'attestaient. Ainsi, la requérante expliquait devant la Cour administrative d'appel de Lyon qu'elle ne proposait strictement aucun service, qu'il n'y avait notamment pas de contrepartie définie dans les liens qu'elle entretenait avec les personnes en cause et que par suite, sa situation ne pouvait pas être regardée comme celle d'une entreprise, que d'ailleurs le commerce de services sexuels est prohibé en France, et enfin en tout état de cause que l'existence prouvée de liens d'amitié ou d'affection interdit de qualifier cette prétendue activité d'activité économique qui serait soumise à la TVA. Et dans sa décision, la Cour administrative de Lyon a écarté sans trembler tous ces obstacles, en jugeant notamment, premièrement, qu'une femme qui reçoit des avantages en nature et en argent de quelques hommes, qu'elle fréquente depuis des années et avec lesquels elle entretient des relations amicales, affectives ou sexuelles, exerce de ce fait une activité professionnelle indépendante. Deuxièmement, que cette profession, qui pourrait être qualifiée d'escorte donc, serait licite en France, alors même que les prestations rendues intégreraient au dire de l'administration des services sexuels tarifés. Troisièmement, qu'ainsi, il serait totalement licite en France de proposer, dans le cadre d'une activité d'entreprise, des prestations d'accompagnement intégrant des services sexuels. Quatrièmement, qu'une telle activité d'entreprise s'intégrerait dans un régime de concurrence légale en France en dépit de la politique officielle abolitionniste de la prostitution de ce pays. On y va, hein ? Tranquille. Cinquièmement, et que par suite, les sommes et avantages perçus à raison de cette activité seraient imposables à la TVA, peu important à cet égard que la prétendue escorte entretienne des relations amicales, affectives ou sexuelles avec ses bienfaiteurs. Ainsi, le fait pour une femme d'entretenir des relations amicales, affectives ou sexuelles avec des hommes plus riches et plus âgés qui la gratifieraient de cadeaux en argent ou en nature serait une activité professionnelle licite, astreinte aux obligations des entreprises et dont le chiffre d'affaires serait imposable à la TVA. On vient donc de légaliser à nouveau la prostitution en France. Les conséquences de cette décision paraissent vertigineuses à tout point de vue. La moindre conséquence ne sera pas que, si l'on suit la Cour administrative d'appel de Lyon, la prostitution « officielle » entre guillemets devrait donc être également soumise à la TVA, ce qui pourrait amener les adeptes des arrêts sur les bords de route qui demandent leur chemin au guide touristique féminin, attendant sur une chaise avec un gilet jaune. C'est 100 euros l'amour, hors taxe bien sûr. Voilà. Vous savez tout et je vous retrouverai avec plaisir sur Radio Pierrot et RPHU dans 15 jours, car n'oubliez pas, vous en avez pris pour perpète. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Epailly, avocat, écoutez les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois à 12h45, rediffusion le jeudi à 9h35.